création on air. On air. On air. Creation on air.
Le son est question d'attention. Quand nous n'écoutons pas, nous n'entendons pas. Selon l'âge, l'un perçoit, l'autre pas. L'un supporte jusqu'à 24 000 Hz, l'autre est sourd dès 8 000. À partir de 20 Hz, notre conscience enregistre. Jusqu'à 80 décibels, nous ronronnons. Au-delà, nous réclamons. À 110, nous sommes menacés, parfois abîmés. Au-delà, le son peut tuer. Notre réalité sonore est-elle l'expression de nos limites auditives? Une perception partiale, lacunaire, autocentrée? Quels sont les signaux qui échappent à nos radars? L'inaudible, Éric Lacaza, Nathalie Battus, Pierre Monteil, Alain Joubert. Création on air.
L'inaudible, par Éric Lacaza.
Il y a quelque chose qui fait du son ici.
T'écoutes-moi?
Et vous avez votre téléphone ouvert, non?
Je ne l'ai pas sur moi. Il est dans la chambre.
T'entends pas? C'est moi, j'entends les...
Ouais, toi, t'as une...
Lui, il a une...
Tu l'entends aussi?
Ouais,
il l'entend aussi.
Le couinement.
Ah, le couinement, oui, ça mais fait... c'est pas ça.
C'est quoi?
Non, c'est pas ça que tu penses.
Si, ça fait...
Le i, oui. Ah oui, oui, d'abord, en tout
c'est
monde.
Quoi
ouais, je sais pas, c'est par là.
Alors, c'est par là. Ce petit appareil est un petit appareil électronique, mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne.
C'est lâché.
Non, il y a des petites voix.
Depuis 25 ans, j'enregistre le monde qui m'environne. Aujourd'hui, pour l'inaudible, j'ai pris mes archives comme objet d'étude. Une étude de tout ce que je n'y ai jamais entendu. De toutes ces oscillations. Au-delà de 20 000 Hz, je dirais même 15 000 en pratique. Ou en deçà de 20 Hz. À l'aide d'un spectromètre, un analyseur du signal sonore, j'ai pu visualiser la présence de ces événements qui pour moi restent fantomatiques, de leur espace inaudible, et ainsi de cette part manquante de mon écoute, et donc du réel. Au moyen de logiciels de filtrage et de transposition, j'ai choisi des moments de cette réalité inaudible pour la faire entendre dans les registres de notre écoute humaine et de la radiophonie, entre 50 et 10 000 Hz. Tous les phénomènes que vous allez entendre ont été enregistrés, aussi bien en ville qu'en pleine nature, en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit. Machines et animaux sont les sujets les plus évidents, mais beaucoup de phénomènes restent innommables. Pour commencer, je vous propose cet enregistrement très récent dans un petit port de plaisance. Il a été réalisé à l'aide de deux hydrophones, sous l'eau, à environ 2 mètres de profondeur. Vous entendez le son crépitant des crevettes et quelques sons plus lointains d'un chantier dans le port. Au spectromètre, des fréquences discontinues très hautes, entre 20 et 40 kHz, apparaissent nettement. Comme vous le constatez, on ne les entend pas. En ralentissant l'enregistrement de 3 fois sa vitesse, ces fréquences deviennent désormais audibles. mais la source émettrice reste difficilement identifiable.
Quand on arrive aux limites de l'audition, le son est moins clair. Les sons nous disent que, en deçà, je vais apparaître très différemment, je vais disparaître. Je vais devenir une série de clics, etc. Au-delà de 15 000 Hz, j'aurai une propriété différente de celle d'un son de 5000 Hz, etc. C'est comme si le son il disait, tu vois, je suis un des derniers que tu peux entendre. Et ensuite, effectivement, on n'entend plus rien. Il y a quelque chose dans la structure du système de sons tels qu'on les entend qui nous induit en erreur, hein, qui nous fait penser que c'est un système clos et qu'il n'y a pas de son en dehors de ce qu'on est capable d'entendre.
Les propriétés de cette expérience sensorielle ne sont pas descriptibles avec les ressources, les mots, les concepts, les noms qu'on se sert pour baptiser les genres d'expériences qui constituent notre vie ordinaire.
On vit pas dans le vide, on vit dans un milieu ambiant, l'air, qui véhicule des vibrations, qui se propagent jusqu'à l'oreille externe, qui entrent dans notre conduit auditif externe, jusqu'au tympan, une petite membrane, qui vibre sous l'action de ces ondes, qui transmet par une petite chaîne d'osselet cette vibration jusqu'à l'oreille interne, et là, dans l'oreille interne, enfin, ce qu'on appelle la cochlée, transforme ces vibrations en impulsions nerveuses, qui sont transmises à notre cortex auditif via le nerf auditif. Donc une petite vibration mécanique acoustique dans l'air est transformée en une petite impulsion nerveuse qui part dans notre nerf auditif et selon le niveau sonore, selon les fréquences, tout ça c'est codé dans notre nerf auditif et décodé par notre cerveau. Nous-mêmes, on produit du bruit. Et notre cerveau comprendra qu'il y a un bruit extérieur lorsque ce bruit est supérieur à notre bruit interne. Et lorsque un signal arrive et passe au-dessus de ce bruit-là, pour notre cerveau, il devient audible. Mais il y a plein de choses qui sont en dessous de ça et qu'on n'entend pas. Notre cerveau les détecte pas comme des informations utiles. le seuil d'audition, c'est 0 dBSPL. Donc ça, c'est un seuil d'audition qui est valable à 1000 Hz, qui est souvent la fréquence qu'on choisit en référence. Et ça correspond à 20 micropascales. Donc c'est une toute petite pression qui s'applique sur notre tympan, qui déclenche une petite réaction là, qui va solliciter notre oreille interne et qui délivre dans notre nerf auditif des impulsions nerveuses. Et en dessous de cette sollicitation-là, les impulsions nerveuses qui seront délivrées dans le nerf auditif passeront pour du bruit. Pour mesurer un audiogramme, on fait une petite dichotomie entre des sons audibles, des sons inaudibles. Donc c'est pas parce qu'on n'entend rien que la personne qui teste notre audition a rien envoyé, mais on envoie audible, inaudible, et comme ça on se rapproche du moment où on est exactement à la frontière entre l'audible et l'inaudible, et c'est ce qu'on définit comme le seuil d'audition.
Au moment où je les diffuse, le public ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que je m'arrête, on voit que j'appuie sur un bouton, mais on ne sait pas ce qui se passe, quoi. J'ai tout simplement choisi une fréquence qui se situe en deçà du spectre audible de l'oreille humaine, une fréquence qui se situe au-delà du spectre audible par l'oreille humaine, et un silence numérique. La première, en fait, c'est une fréquence de 8 Hz. Qui correspond au seuil bas des fréquences alpha. Ce sont ces fréquences émises par le cerveau à l'état de repos, dont l'émission se situe entre 8 et 12 Hz. La deuxième fréquence, c'est une fréquence de 17 000 Hz, utilisée par le mosquito. Ce répulsif sonore inventé au milieu des années 2000 par Howard Stapleton, qui visait à diffuser cette fréquence de 17 000 Hz à haut volume dans des endroits où on ne souhaitait pas voir certaines personnes. Et en l'occurrence, des adolescents, par exemple, qui pouvaient traîner aux abords des centres commerciaux, dans les parkings, etc. Et donc, il y avait ce petit répulsif sonore qui diffusait cette fréquence et qui faisait fuir les ados. En réalité, le mosquito disposait de deux modes, adolescents et tout âge confondu. Et là, ça envoyait une fréquence de 8000 Hz, je crois, pour aussi faire fuir les SDF, etc. Et ce qui est très intéressant derrière ce dispositif, c'est qu'il joue de l'inaudible pour clairement faire une partition sociale entre des personnes qui peuvent véhiculer, qui peuvent se déplacer dans un endroit pour faire du shopping, pour boire un café, etc. Et puis d'autres qui sont exclus de ce commun, entre guillemets. Troisième fréquence, qui est en fait un leurre, un silence numérique. Donc du rien. Dès lors que l'on cherche à entendre l'inaudible, peut-être que il se joue aussi dans tout ce qu'on n'arrive pas à entendre en cherchant à entendre l'inaudible.
Cette question du seuil est très importante. Et ce qui est très intéressant, c'est la frontière, parce que cette frontière, elle peut se déplacer. On peut imaginer des créatures pour qui la fenêtre tonale est un peu différente. Donc là aussi, ça veut dire que ce qui compte comme un bruit pour un organisme est un son pour un autre, et réciproquement, enfin, on peut avoir aussi d'autres types de phénomènes. Et alors là, on parle d'un seuil qui est... comment dire, c'est pas un seuil de perception auditive, mais c'est un seuil qui est à l'intérieur du domaine de ce qui est audible, un seuil entre peut-être bruit ou clic non différencié, et puis son avec une certaine qualité tonale, un timbre, etc. Comme les philosophes aiment bien les expériences de pensée, c'est-à-dire ils aiment bien imaginer des situations qui ne sont pas forcément empiriquement testables, mais qui au moins en pensée semblent cohérentes, on avait imaginé effectivement des Vénusiens ou des Martiens qui, dont la fenêtre tonale était très différente et qui perçoivent alors soit un ensemble de battements là où on perçoit des mélodies, soit au contraire perçoivent des mélodies là où on entend simplement des clics qui sont exécutés dans un certain ordre et avec une certaine qualité de vibration. Enfin, les mêmes vibrations, on va dire, peuvent être perçues très différemment, effectivement, selon les organismes.
Aussi qu'il y a des gens qui peuvent entendre un peu plus bas que 20 Hz, qu'il y a des gens qui sont sensibles à des fréquences un peu plus basses. Alors c'est très variable selon les gens, et visiblement il faut que ce soit à des niveaux très très forts pour que ça produise une sensation auditive, j'entends. Par contre, après, des fréquences très très basses, de l'ordre de 10 Hz, et ben ça peut mettre en résonance nos organes, hein, notre foie, notre rate, ou même lorsqu'on va à un concert où il y a des fréquences très très basses, on sent notre nez des fois qui vibre, le cartilage de notre nez qui vibre des fois sous l'effet de très très basses fréquences. Nos organes, comme n'importe quel objet, possèdent ce qu'on appelle des fréquences de résonance, des fréquences où quand on les sollicite, ils répondent bien. Imaginons une onde acoustique arrive sur moi, elle traverse mon ventre. Les basses fréquences, en fait, elles sont très faiblement atténuées par tout ce qui est tissu. Des fois, ça peut être éventuellement un peu désagréable. En fait, tout ça dépend des dimensions de l'objet et de son comportement, s'il est plus ou moins élastique, rigide, souple. Donc en fonction de tout ça, il va posséder une ou plusieurs fréquences de résonance. Et lorsqu'on le sollicite à ces fréquences-là, et ben, il va se mettre à vibrer fort. Et il vibrera d'autant plus fort que la fréquence qu'on lui envoie est proche de sa résonance. Thank you. Par exemple, j'imagine les séismes ou des trucs, des ondes de très très basse fréquence peuvent être perçus de cette manière-là. Ouais. Bon, après, on n'a pas de données chiffrées là-dessus, parce que évidemment, c'est impossible à reproduire comme expérience. Mais il y a des témoignages qui parlent de ça, y compris sur le comportement des animaux qui seraient sensibles à ça. Le seuil, c'est une notion un peu théorique, en fait, peut-être, parce que du coup, dans la nature, on est rarement confronté à ce qui se passe au seuil, quoi. Enfin, le seuil, il est masqué par tout le bruit de fond, et à vrai dire, il est même masqué par nous-mêmes, étant donné que nous, on produit plein de bruit au-dessus de notre seuil. Donc... Dans l'inaudible, il y a plusieurs choses. Il y a les fréquences qui sont pas audibles, qui sortent de notre bande passante. Et il y a les niveaux qui sont pas audibles, qui sont inférieurs au seuil. Mais bon, après ça, ces niveaux-là, dans la nature, on les rencontre pas souvent. Hein. Des informations utiles qui seraient inférieures au seuil, il n'y en a pas beaucoup. Déjà dans la nature, le bruit de fond, il est loin d'être négligeable, et pour finalement percevoir des choses qui seraient très très proches de notre seuil, il faudrait pouvoir faire abstraction de ce bruit. Ce bruit de fond qui est présent même dans ce qu'on appelle le silence.
Il est vrai aussi que les systèmes sensoriels n'aiment pas l'absence d'objets. Donc, en général, quand on est plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité la plus totale pendant un moment, ben, on a des quasi-hallucinations, hein, c'est-à-dire qu'on a des échos sensoriels qui apparaissent devant nos yeux. Bon, est-ce qu'on peut dire que un même type de phénomène se produit quand on fait l'expérience d'un silence très profond Et donc il y a toujours quelque chose qui résonne hein, en soi, et je pense que c'était aussi une des leçons de Cage.
Il y a toujours un résidu d'inconnu qui nous oblige à le reconnaître.
En fait, on aurait plutôt mémoire de tout ce qui se passe au-dessus du bruit. Ce qui s'imprime vraisemblablement, c'est ce qui émerge au-dessus du bruit de fond ou du bruit interne, mais c'est plutôt ça qui va être mémorisé. Et ce qu'on stocke dans notre mémoire à long terme, c'est plutôt ces événements-là.
une chauve-souris, bah, par exemple comme la pipistrelle commune, si elle est dans un espace très très ouvert, qu'elle cherche à repérer des obstacles, quelque chose de très loin, et qu'elle n'a pas besoin d'une précision énorme, elle va émettre des sons, des fréquences plutôt basses, pour sa gamme de fréquences, hein, ça va quand même rester entre 40 et 50 000 Hz, et qui vont très peu varier en fréquence. Donc des espèces de bips comme ça, à fréquence constante. Alors ça, ce sont des sons qui portent loin, qui repèrent bien des objets, enfin gros, entre guillemets, un peu gros pour une pipistrelle, disons de l'ordre de quelques millimètres ou d'un centimètre, dont l'écho n'apporte pas beaucoup d'informations sur la forme de l'objet, sa distance exacte, etc., etc. Et quand elles vont avoir besoin d'informations beaucoup plus précises, c'est-à-dire en approchant un obstacle ou en approchant une proie potentielle, à ce moment-là, elles vont émettre des signaux qui vont être de plus en plus courts et de plus en plus modulés, c'est-à-dire qu'ils vont balayer une plus grande gamme de fréquences, qui vont partir de fréquences plus élevées, c'est-à-dire qu'elle va émettre jusqu'à... En général, ce sont des signaux qui démarrent vers 100 000 Hz ou un peu au-dessus de 100 000 Hz et qui descendent en quelques millièmes de seconde en fréquence jusqu'à 40, 50 000. D'une part, elles émettent des cris, bon, qu'on appelle peut-être, en français c'est peut-être plus simple, on parle de signaux, donc d'écholocation. En bon français, on devrait même dire écholocalisation, donc qui leur servent à se repérer et surtout à repérer leur proie. Et puis, elles émettent aussi ce que nous appelons des cris sociaux en général, donc qui sont des cris de communication et qui peuvent être des véritables chants aussi compliqués qu'un chant d'oiseau.
Et qu'est-ce qu'elles font quand elles chantent, alors, justement?
Alors, quand elles chantent, donc je pourrais...
Quand elles ne chassent pas.
Vous en faire écouter. En Europe, en tout cas, les chants les plus compliqués, les plus fréquents, c'est vraiment pendant la saison du rut, qui est en automne. Ça rappelle un chant d'oiseau, c'est... Vous êtes devant une noctule qui chante, vous allez entendre... Vous ralentissez ça 10 ou 20 fois, vous vous rendez compte que c'est aussi compliqué qu'un chant de rossignol.
On distingue deux modalités de notre connaissance du réel, c'est-à-dire d'un côté la pensée et d'un autre côté la sensation. Si notre connaissance du monde s'érige à partir de la synthèse ou du mélange de ces deux modalités, penser et sentir, ce qui est le plus important, c'est de saisir leur intrication. Je pense que on ne peut percevoir un phénomène qu'en tant que quelque chose. Percevoir, c'est aussi reconnaître ou classifier le phénomène d'une façon ou de l'autre. Et dans la sensation, en fait, notre accès sensible au réel est sous-jacent à ce moment de classification conceptuelle, de détermination conceptuelle. C'est pour ça que il y a un délai ou même une sorte un retard dans l'expérience entre les sensations que nous éprouvons et notre perception de ce que nous sentons ou ressentons.
En 2014, j'ai passé plusieurs nuits à enregistrer l'air dans un musée vide. Dans ces très grands volumes blancs, en attente d'une exposition, seule la ventilation mécanique se signale par son continuum sonore d'air pulsé. Au spectromètre, pourtant, une fréquence discontinue à 20 kHz est visible. Lorsque je ralentis cet enregistrement de deux fois sa vitesse, je mets en évidence, dans tous les espaces d'exposition, ce signal régulier qui est très certainement un avertisseur pour les animaux du parc environnant. Il établit ainsi une frontière entre le monde humain et le monde animal.
Marque la limite entre l'audible et l'inaudible, le visible et l'invisible, c'est que ça, on sait déjà, en fait, même en marquant la limite, c'est une détermination de l'inconnu, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qui nous échappe. Construire les ressources nécessaires pour pouvoir sonder la structure de ce monde et en fait elle est déterminée mais elle n'est pas déjà donnée, c'est-à-dire que il y a un monde en soi, il faut construire pour saisir ce monde, pour plonger dans ce monde, il faut un effort autant conceptuel que perceptuel.
Je pense que l'erreur qui a été faite dans la tradition philosophique, à tout le moins, c'est de considérer que l'expérience du silence, finalement, se résume à l'absence d'expérience auditive. Bon. Ce qui a une conséquence immédiate, c'est que les personnes qui sont nées sourdes devraient avoir des expériences de silence. En réalité, des hallucinations de silence, puisque évidemment, étant sourdes, ils ne sont pas réceptifs au monde sonore, donc on devrait parler d'hallucinations de silence. Et c'est pas très plausible. C'est pas très plausible de considérer que notre expérience du silence en tant que sujet entendant, c'est la même chose que l'expérience d'une personne née sourde. Et c'est une erreur d'attribution que, bon, beaucoup ont dénoncé, à commencer par Diderot. Hein, Diderot, dans ses deux fameuses lettres, la lettre sur les aveugles et la lettre sur les sourds et les muets, nous invitait à ne pas considérer la surdité comme une privation ou un défaut. Enfin, il disait, ben, les personnes nées aveugles ou les personnes nées sourdes, ils ont d'autres moyens, ils déploient des moyens différents d'accès au monde, parfois d'ailleurs meilleurs que les moyens des entendants ou des voyants, et que c'était une erreur de considérer que, par exemple, le sourd vivait dans un monde de silence. De même que c'est une erreur de considérer que l'aveugle vit dans un monde de ténèbres. Mais alors, si l'expérience du silence, c'est pas l'absence d'une expérience auditive, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il ne faut pas confondre l'expérience d'un silence, ou de silence au pluriel, et l'expérience du silence. L'expérience d'un silence, c'est effectivement l'expérience d'une pause ou d'une interruption entre des sons. Un petit peu comme, si on fait une analogie dans le domaine visuel, ben, c'est comme un trou ou une cavité qui se caractérise par une absence de matière, certes, mais une absence de matière qui est délimitée par de la matière. C'est-à-dire pour qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait quelque chose autour. De même, pour qu'il y ait un silence, il faut qu'il y ait des sons, des séquences sonores ou des bruits qui délimitent le silence. Il faut ces limites, ces frontières sonores pour que le silence puisse exister. Dans la phénoménologie, c'est une tradition importante de la philosophie du XXe siècle, on trouve la question de la perception de l'absence. Et on a pu dire que l'expérience du silence, c'est l'expérience de l'absence de son, et pas seulement l'absence de son ou l'absence de perception auditive, mais c'est une forme de conscience de l'absence d'un son. Très spéculatif ce que je vais dire là, mais il se trouve que quand on fait l'expérience d'un silence, bon, on a vu, pas absolu, mais bon, quand on est dans un environnement qui est très peu bruité, où on entend très peu de choses, voire éventuellement rien du tout, le cerveau se met dans un état qu'on appelle un état par défaut, en fait. Il n'est pas du tout inactif, comme on pourrait le croire. C'est ensemble d'activités en réalité où le cerveau enfin, lit des informations entre elles et je pense qu'on est partout dans la perception, il y a un sens de nous-mêmes, un sens du soi qui est présent dans toute expérience, mais peut-être plus particulièrement dans l'expérience du silence, parce que là effectivement on est renvoyé à nous-mêmes Éventuellement, le modèle du réseau par défaut pourrait expliquer pourquoi, en l'absence d'informations extérieures, on se replie sur soi d'une certaine manière.
Indépendamment de toute représentation, c'est-à-dire de tout percevoir. Je pense qu'on peut penser une dimension de l'expérience sensible qui est antécédente à la perception telle que modulée par les concepts, mais que justement, elle n'est pas accessible à la conscience. C'est pour ça qu'il y a une couche ou une strate de l'expérience sensorielle qui est toujours inaccessible au sujet de cette expérience.
Il n'y a pas de silence absolu. Bon, c'est... Il n'existe sans doute aucun être vivant qui entendrait, je ne sais pas moi, de 0,001 Hz jusqu'à 200 000. Donc, si cet être existait, effectivement, il ne connaîtrait sans doute jamais le silence. Il percevrait des mouvements sismiques, des vibrations, même des vibrations d'un train qui passe à 3 km de là, etc., etc. Mais en pratique, je pense qu'il n'existe aucun être vivant qui ne puisse pas se trouver peut-être son espace de silence. En fait, oui, il faudrait voir, on parle d'audible et d'inaudible, à la réciproque, oui, c'est peut-être les espaces où on peut avoir du silence, l'espace de fréquence où on peut trouver du silence, oui. C'est dans la mer qu'il n'y a sans doute pas de silence. Dans la mer, dans l'eau, les sons se propagent beaucoup plus loin, ne s'atténuent pas. Je pense que des cétacés qui entendent dans une très grande gamme de fréquences, eux, ils ont peut-être... Ouais. On parle d'ailleurs beaucoup des effets négatifs de la pollution sonore sur les cétacés. Ouais, ça c'est un milieu où le silence doit exister nulle part, puisque... Ouais. En fait, c'est dans le vide, ok, là, il n'y a plus de son, mais bon, on ne peut pas y vivre non plus. Et la mer, c'est un peu l'extrême opposé, ouais. Une chauve-souris, dans la journée, dans un trou d'arbre, dans un grenier, à mon avis, elles sont assez au calme, quoi. C'est pas... Mais bon, elles sont aussi comme beaucoup d'autres animaux, elles s'habituent à tout, mais... Donc le silence... Non, moi, je pense qu'elles en bénéficient aussi. Enfin, le silence le plus impressionnant pour moi, c'est quand même celui qu'on... pas dire qu'on entend, qu'on vit dans une grotte, dans une cavité souterraine, quoi, quand on est... Bon, et elles sont des situations où elles sont... donc si elles sont toutes seules, ou si pendant l'hiver, là, elles sont vraiment dans un silence absolu, c'est... Quand aucune ne bouge autour d'elles, parce qu'elles sont très grégaires, hein, la plupart sont... Elles sont rarement toutes seules, mais... je pense que... Non, c'est quelque chose qu'elles doivent expérimenter quand même, ouais.
Thank you. ceux que les mécanismes de la représentation laissent de côté. En fait, je pense que pour connaître une chose, il faut... En fait, la pensée trace déjà cette ligne de démarcation entre la chose telle qu'elle apparaît et la chose telle qu'elle est en soi. C'est pour ça que ce n'est pas, il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas l'apparaître d'un côté et la chose en soi de l'autre côté. C'est le même monde qui apparaît et en plus, on fait partie de ce monde. Et le monde des apparences, en fait, ce que la science nous apprend, c'est que les dimensions de l'apparaître ne sont pas déjà déterminées à l'avance. Nous ne connaissons pas toutes les dimensions, toutes les façons dont les choses peuvent apparaître. Ancrer la représentation dans le monde, c'est chercher un rapport entre monde et représentation, où on dit que le monde, en fait, donne lieu, la représentation fait partie du monde, mais le monde ne détermine pas sa représentation véritable. C'est-à-dire que le monde ne peut pas garantir la vérité ou l'exactitude des pensées qu'il représente.
Alors le projet s'intitule La capture de l'inaudible. C'est au départ une performance qui réfléchit à ce que peut représenter l'inaudible dans nos sociétés. Tout ce que nous n'entendons pas et tout ce que nous ne pouvons pas entendre, tout ce qui excède notre écoute, c'est-à-dire qui excède notre entendement. Cette performance lit une série de citations sur l'inaudible et cette lecture est encodée via un logiciel qui a été créé pour l'occasion, qui est en fait tout simplement un encodeur inversé du MP3, c'est-à-dire qui ne conserve que ce que supprime le MP3. L'histoire du MP3, c'est quoi ? C'est l'histoire de la compression. C'est la première technologie audio qui est de l'ordre du psychoacoustique. C'est-à-dire que la reproduction sonore à l'œuvre dans le MP3 est une reproduction sonore calquée sur le modèle perceptif humain et va en réalité anticiper, produire avant même l'audition, le MP3. Par des analyses du fonctionnement même de l'oreille, va finalement supprimer l'ensemble des fréquences que notre oreille, de toute façon, selon cette idéologie, n'entend pas. C'est pas qu'on s'arrête plus à ce qu'on entend, c'est qu'on est face à des technologies aujourd'hui qui anticipent la perception. On est dans un gouvernement des sens par anticipation. En gros, on vous dit, avant même que vous ne puissiez percevoir la chose, que vous ne pouvez pas percevoir certaines choses, donc on les enlève. et vous n'avez accès qu'à cette soustraction. Mais ça, c'est finalement plus largement symptomatique de notre pensée des technologies aujourd'hui, d'aller de plus en plus sur des technologies qui anticipent les comportements. Et ça, c'est très intéressant du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue politique, et de son livre. Prenons une partition comme une décomposition conceptuelle des années 60 de Lamont et Young, qui consiste à lâcher un papillon dans un espace. Et la partition est terminée quand le papillon a pu sortir de l'espace. Et donc on doit écouter ce papillon. Et quelque chose qui est très intéressant là, du point de vue de porter l'oreille à ce qu'on ne peut pas entendre. Donc, si le travail de l'art, c'est renégocier les partages du visible et de l'invisible, de l'audible et de l'inaudible, eh bien, c'est politique parce que ça renvoie directement à cette inaudibilité de certaines populations, de certaines communautés, de certains groupes au sein de l'espace politique. L'inaudible devient politique quand, finalement, il est dans son rapport d'articulation, dans la tension avec l'audible, quand il passe de l'un à l'autre. Et quand il, en passant de l'inaudible à l'audible, vient reconfigurer ce qu'on pouvait considérer comme inaudible. Ça ne veut pas dire que l'inaudible disparaît, c'est qu'il renvoie à d'autres partitions sociales. Quand on cherche même à entendre l'inaudible, qu'est-ce qui échappe à notre quête de l'inaudible ? La recherche même de l'inaudible provoque de l'inaudible d'une certaine manière.
L'inaudible, par Éric Lacaza. Avec Ray Brassier, philosophe. Jérôme Dokic, philosophe cognitif. Jean-François Julien, chiroptérologue. Chargé de recherche CNRS au Centre d'écologie et des sciences de la conservation et au Muséum national d'histoire naturelle. Vincent Keul, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, et Mathieu Saladin, artiste sonore et maître de conférence en art plastique, Université Paris 8. Coordination, Chouchane Djergaïan et Irène Omelianenko. Prise de son, Pierre Monteil et Éric Lacaza. Mixage, Alain Joubert. Création sonore originale, Éric Lacaza, inaudible. Son additionnel, sous ma voix actuellement. Poisson électrique du fleuve Amazon, de Slavek Kui. Réalisation, Nathalie Battus. Une production création en air. À tous ceux inabordables inaccessible, inaperçu, inattendu, inaudible, incalculable, inécoutable, incommensurable, incompréhensible, inconnu, inconvertible, incroyable, indéchiffrable, indéfini, indescriptible, indéterminable, indicible, indiscernable, inécoutable, inestimable, inexplicable, inextirpable, inextricable, inimaginable, inintelligible, innommable, inobservable, inodore, inouï, inqualifiable, insaisissable, insignifiant, insondable, insonore, intouchable, intraduisible, invisible, invraisemblable, irrécupérable, irréductible, irréel et irrésolu.
C'était Création en air, l'inaudible, par Éric Lacaza, Nathalie Battus, Pierre Monteil, Alain Joubert. Dans quelques instants, nous allons basculer de l'autre côté de la nuit, avec des archives à écouter jusqu'au lever du jour, des nuits à podcaster sur franceculture.fr.